Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Nous sommes le 4 avril 2021, j'ai déjà un chat dans la gorge, ça tombe bien. Je tiens l'info d'un calendrier, 4 avril 2021, voyez. J'ai décidé maintenant de citer toutes mes sources. Chers amis, Patrice Romden, Christophe Brun et Mastrac, bonjour, c'est bien parti cette émission.
Bonjour Michel.
Alors que s'est-il passé les amis le 4 avril 1960 sur le plan médical?
Ah ça,
une personnalité
d'un médicament, ouais,
ou une personnalité à une maladie incroyable?
Non.
Non plus.
Une naissance d'un médecin dingue?
Non.
Ou une prouesse technique médicale?
Non, je vais vous aider. Il ne s'est rien passé le 4 avril 1960 sur le plan médical. Absolument rien. En revanche, le film Ben-Hur rafle 11 Oscars à Hollywood avec, bien sûr, Charlton Heston. Est-ce que vous savez avec quoi on lavait les plaies à l'époque de l'Antiquité romaine? Je sais, c'est Capitole sacré.
Avec de la salive.
Non. Avec de l'urine.
Je rappelle qu'il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Hein, on utilisait l'opium et on lavait les plaies avec l'acide acétique, autrement dit le vinaigre.
Ouf.
Ça servait à désinfecter les plaies.
À pic.
Vous imaginez 2 secondes comme ça devait être jouissif.
Oui,
à l'époque.
Mais pardonnez-moi, mais quand j'étais tout petit, donc c'est il n'y a pas si longtemps.
À l'époque de l'Antiquité romaine.
Je l'ai nettoyé à l'alcool à 90 degrés, c'était pas mal non plus.
C'est vous qui faisiez ça ou c'est vos parents que je vais dénoncer immédiatement à la DAS?
C'était moi, c'était mes parents, mais il fallait quelqu'un pour souffler sur la plaie en même temps.
Ah oui, ouais. L'alcool à 90, Florent Marceau l'a dit, on le faisait pas mal. Oui, c'était radical et effectivement il restait plus grand chose, même plus de peau. Il devait y avoir à l'époque pas mal d'automédication avec, vous savez, vous connaissez cette expression, un coup de gnôle. Vous savez ce qu'on dit dans la montagne?
Bien sûr, casse la bagnole.
Et un coup de mondeuse.
Casse la dameuse.
Tout à fait. Alors, Emma.
Moi, je suis contente parce que j'apprends plein de trucs le dimanche matin.
Vous allez nous parler d'automédication, justement.
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, je vais vous proposer de respirer un grand coup et de détendre la mâchoire. Je m'intéresse à la santé de nos dents aujourd'hui. Oui, parce que le stress qu'on vit depuis une grosse année, il a tendance à nous faire grincer des dents, au sens figuré, mais aussi au sens propre.
Oui, mais c'est pas grave, vous parlerez quand même de l'automédication un jour. Ce matin, Patrice.
Eh bien, ce matin, nous évoquons la vie d'un homme qui est passé de vie à trépas en avril 1955 pour cause de rupture d'anévrisme. Mais un homme dont le cerveau était à ce point fascinant qu'il a fait l'objet d'une tentative de vol. Alors, qui est cet homme? Attention, je vous mets sur la piste et je vous dis E égale MC2, donc.
Je laisse parler mon instinct.
Bravo. Albert Einstein.
Tout à fait.
Avec l'accent, Michel.
Justement, on passe d'un génie à l'autre. Christophe.
Niars Barclay, crazy. Alors vous allez me dire, quel rapport avec notre chronique du jour? Eh bien, nous allons parler des paris fous, crazy, donc, tenus par certains aventuriers, on peut les appeler comme ça, qui ont tenté, qui de courir 100 km sur un tapis de course, qui de faire plus de 18 000 km à vélo sur un home trainer. Des fous, pas sûr, même si en découvrant leur défi, je me suis dit...
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Comment il s'appelle?
Le chanteur?
Ouais.
Niars Barclay.
Mais qui, comment on peut trouver un prénom pareil?
Eh voilà.
Complètement dingue. Alors, comme ça, Emma, la situation sanitaire qui pourrait entraîner les gens à l'automédication, le port du masque et les confinements, ça vous fait grincer des dents?
Je vais trouver le moyen d'en parler, je vous jure. Oui, ça me fait grincer des dents et apparemment, je ne suis pas la seule. D'après une enquête publiée par l'association dentaire américaine, de plus en plus de dentistes voient arriver en consultation des patients qui souffrent de grincements et de serrements de dents. Et les soucis qui y sont associés le plus souvent, ce sont des dents ébréchées, des dents fissurées, mais aussi des maux de tête et des douleurs de la mâchoire.
Et en France, même constat.
Même constat, oui, depuis le premier confinement et aujourd'hui encore, me confiait Christophe Lécard, chirurgien dentiste et porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Il me disait que les spécialistes en cabinet voient en effet davantage de fractures dentaires, également beaucoup de couronnes et de bridges décellés. et des patients qui se plaignent de douleurs à la mâchoire.
Alors on se demande peut-être à quoi est liée cette épidémie de bruxisme, hein, c'est comme ça qu'on parle, ou de grincement des dents. Et ben, c'est un effet collatéral de la crise qu'on traverse.
Et ouais, une crise bien stressante à plein d'endroits, l'angoisse liée à la santé, l'absence d'interaction sociale, les craintes liées au travail. Nous sommes plus tendus que d'habitude et si certains s'en rendent compte en journée qu'ils ont tendance à serrer les dents, la plupart des cas se manifestent plutôt la nuit.
Ben comment on s'en rend compte d'ailleurs dans ces cas-là ? C'est le conjoint qui vous cueille au réveil et avec un bonjour du genre « Salut chérie, tu as grincé des dents toute la nuit ?»
Ça fait du bruit, hein,
effectivement. Ah ben oui, je me pose la question.
Et ben ouais, ouais. Ben du coup, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, parce que la personne concernée, évidemment, elle ne se rend compte de rien, si ce n'est qu'elle peut avoir des difficultés à ouvrir la mâchoire le matin.
Qu'est-ce qu'on fait, alors, une fois qu'on a identifié le problème ?
Alors, juste pour revenir sur ces histoires de douleurs à la mâchoire le matin, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de forcer l'ouverture de la mâchoire. Donc, on y va tranquillement, avec des petits mouvements d'ouverture-fermeture pour échauffer l'articulation. Ensuite, plus généralement, pour traiter le bruxisme, il n'y a qu'une solution, c'est la gouttière. Vous savez, c'est une plaque de résine qui s'interpose entre les dents du haut et celles du bas, de telle sorte qu'elle supprime le contact et déprogramme le jeu musculaire de la mâchoire, comme me l'expliquait le docteur Lecard. Cette gouttière, elle est réalisée sur mesure, donc il faut s'adresser à son chirurgien dentiste. Et entre la Sécu et la Mutuelle, elle est prise en charge à 100%.
Alors, vous avez préparé quand même un petit quiz en attendant sur les dents.
Bah oui, les enfants ont tendance à grincer des dents, c'est vrai ou c'est faux ?
Moi, je dirais oui.
Oui, si les adultes le font, allez, oui.
Ouais, mais alors pas du tout pour les mêmes raisons.
Les adultes, c'est peut-être le stress et les enfants, c'est.
Eh bien, eux, ils ont tendance à grincer des dents à l'arrivée des dents définitives parce que ça modifie l'engrainement entre les dents du haut et du bas, puisqu'elles n'ont pas la même taille entre les dents de lait et les dents définitives. Donc, ils grincent pour retrouver le confort de la position initiale. Et donc, c'est très, très fréquent chez les enfants, ça. Pas besoin de soigner une dent de lait puisqu'elle va tomber. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est faux.
Il y a des dents de lait qui ont du mal à tomber et qui empêchent la dent définitive de pousser. Elle va pousser de travers, non ?
Ouais, et en plus, il y a le risque d'avoir des caries sur la dent définitive, même si elle est d'abord installée sur la dent de lait. Donc, en effet, on soigne quand même les dents de lait. Les enfants ont plus de caries aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est vrai ou c'est faux ?
Je pense que c'est faux.
Et moi aussi.
Oui, parce que maintenant, on a des traitements préventifs. On met sur les sillons, on met des produits justement pour éviter ça, non ?
Mais vous êtes trop fort. Et en plus, on a mieux appris les bonnes pratiques, notamment du comment réaliser un bon brossage. Et justement, la recommandation, c'est 2 brossages de dents de 2 minutes par jour. Vrai ou faux ?
Je dis oui, et je rajoute que si vous ne savez pas...
Ne vous énervez pas. C'est pas parce que pour une fois vous avez la réponse qu'il faut, s'énerver. Allez-y tranquillement.
Non, vous savez qu'il y a une musique particulière qui dure précisément 2 minutes. Ah oui. Donc vous la mettez, vous savez, une fois qu'elle est terminée, vous pouvez arrêter de vous brosser les dents. C'est Yesterday des Beatles.
Ah d'accord.
Moi je mets Hey Jude parce que ça dure 7 minutes.
Oui, vous avez
et
plus
alors
de
c'est pas pour les dents, c'est pour les slow. C'est beaucoup plus pratique. Merci beaucoup Emma. On se retrouve dans quelques instants avec Patrice qui va nous parler d'un génie, Albert Einstein.
RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Patrice, vous nous disiez que quelqu'un a volé le cerveau d'Einstein.
Oui, Michel, et c'est un de vos confrères, figurez-vous. Thomas Harvey, c'est l'homme qui a autopsié Einstein 7 heures à peine après la mort du génie. Alors que le corps est encore chaud, hein, il procède à l'extraction du cerveau. Et il se disait donc à l'époque que ce trésor pouvait contenir le secret de l'intelligence. Alors au passage, le bon docteur Harvey chaparde aussi les yeux d'Einstein, ce qui lui vaudra d'être viré de l'hôpital de Princeton dans le New Jersey.
Le fait est que ceux qui se sont penchés sur le cerveau d'Einstein ont relevé une malformation dans la région du cortex cérébral. Alors il se trouve que c'est une région qui est impliquée dans le processus du langage et que chez Einstein, elle est réduite au profit de la zone du raisonnement abstrait.
Et ce constat colle, on va dire, avec les témoignages sur l'enfance du génie. Alors d'abord, le petit Albert se met à parler tardivement, à l'âge de 4 ans. Ensuite, quand il parle, c'est au prix d'une élocution laborieuse. Et puis, devenu étudiant, il écœure tout le monde en maths, en physique, mais dans les matières humanistes, en histoire géo, en langues anciennes, par exemple, ça patine. Et cette indisposition pour le langage se traduira plus tard par une incapacité aussi à s'exprimer clairement en public.
Alors, pour bien des biographe du savant, ce trouble de communication verbale est révélateur du syndrome d'Asperger, hein, du nom du pédiatre autrichien qui, en 1943, avait décrit un modèle de comportement qui correspond en plusieurs points à celui d'Albert Einstein.
Oui, parce qu'il y a autre chose, mise en évidence par Temple Grandin, une autiste surdouée, elle relève qu'Einstein s'habillait avec négligence. Un manteau difforme, un pullover terne, un pantalon trop court, l'essentiel c'est qu'il se sente à l'aise. Et à l'époque, donc, il se fiche des conventions sociales, tout cela détruit déteint évidemment sur ses relations avec son entourage.
Parce qu'il n'était pas facile à vivre. Hein,
oui, pas facile pour Elsa, la seconde compagne. Elle a passé sa vie à le servir et à endurer ses sarcasmes. Pas facile non plus pour Liz Earl, sa fille, née hors mariage, enfant dont la courte existence est entourée d'un grand mystère. Le génie s'en serait à ce point désintéressé qu'il ne l'aurait tout simplement jamais vu. Comme quoi la bienveillance du génial Einstein reste toute relative.
Alors la thèse du syndrome d'Asperger est aussi servie par l'intelligence hors norme d'Einstein et par son attirance pour les questions pour le moins complexes.
Oui, alors la particularité d'Einstein, c'est qu'à des questions improbables, hein, que lui seul avait l'idée de se poser, il a apporté des réponses durables. La plus prestigieuse de toutes se résumant en une équation, E égale MC2. Alors E, c'est quoi, hein ? C'est l'énergie d'un corps, M, c'est la masse, et C, hein ? C'est la vitesse de la lumière au carré, c'est 2, voilà. Alors l'énergie d'un corps est égale à la masse de ce corps multipliée par la vitesse de la lumière au carré, voilà. L'équation a été formulée en 1905 dans le cadre de la relativité restreinte. Mais vous, Michel, je sais que vous avez une autre définition de la relativité. D'ailleurs, vous nous l'avez donnée il y a quelques semaines, on ne s'en lasse pas.
Ah, vous l'avez bien aimé celle-là. Il avait dit, asseyez-vous une heure près d'une fille, ça passe comme une minute. Asseyez-vous une minute sur un poêle brûlant et ça passe comme une heure, c'est ça la relativité, on l'a dit aussi à Einstein, et c'est quand
c'est
même
beaucoup plus clair
que Yann MC2. Juste un dernier mot, Patrice, parce qu'il y a une polémique en ce moment autour du nom d'Asperger.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'associations qui emploient cette dénomination, mais elle est récusée par pas mal d'autistes aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que le docteur Hans Asperger, qui a donné son nom à la maladie, il a un petit passé nazi, quoi.
Merci beaucoup pour ces infos, Patrice. Alors, on va changer complètement de sujet, les amis. Nous sommes début avril, on a quand même pas mal d'heures de soleil en plus. Et donc, la libido semble redémarrer un petit peu, je ne sais pas pour vous, vous allez me le dire.
Un témoignage sur notre gauche.
Non, mais c'est vrai que la pandémie, le confinement, la morosité ambiante.
Ça m'excite.
On en avait déjà parlé, c'était pas quand même la fête
folichon,
du
ski.
Mais parler pour vous.
Non, je parle pour tout le monde et vous savez très bien, Christophe, même
oui,
vous.
D'accord.
Et on va prendre Gilbert Boujaoudé, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
On va le prendre en ligne. Médecin sexologue de référence de notre émission. On en avait parlé, Gilbert. C'est vrai que la libido était pas au top pendant cette pandémie. On est d'accord là-dessus.
Oui. Bah ça dépend. Il y a des couples quand même qui avaient la chance de se retrouver confinés à deux jeunes couples récents, sans enfants, dans une grande maison. Eux, pour eux, ça a été quand même.
D'accord.
Mais c'était pas la majorité des personnes, quand même.
C'est dans les... Oui, il y a pas beaucoup de gens qui sont dans une grande maison, tout seuls, sans enfants, jeunes, depuis pas longtemps. Il va y avoir deux couples en France.
C'est ça.
Alors, Gilbert, pourquoi, une question qu'on se pose tous les printemps, chaque printemps, et à laquelle j'ai pas toujours de réponse, pourquoi la libido augmente au printemps ?
Alors, elle augmente, mais bon, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que ça augmente plutôt au printemps, en été. Il y a plusieurs explications. Il y a déjà le fait que la chaleur et le fait qu'on change d'habit, on sait que la stimulation visuelle fait partie de l'ensemble des stimuli de l'excitation et de la libido.
Chez l'homme. Plutôt chez l'homme.
Chez l'homme et chez la femme. En fait, chez la femme, ça existe, sauf que socialement, c'est un peu plus éteint. C'est-à-dire, on a toujours considéré que la femme n'a pas de stimulation visuelle, ce qui est faux. Je dirais que chez la femme, la stimulation visuelle existe, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'élaboré autour.
Il faut un cerveau en plus en face.
Un peu élaboré, quoi.
C'est un peu plus d'éléments nécessaires, alors que c'est vrai que chez l'homme, la stimulation visuelle peut être à elle-même suffisante. Donc, il y a déjà ce côté-là où on s'habille autrement. Il y a la fameuse luminosité, hein. C'est d'ailleurs ça fait partie des symptômes de la dépression saisonnière, hein, de perdre la libido. Et donc quand la luminosité revient, on sait que tout ce qui est luminosité peut jouer sur la sérotonine, sur la mélatonine, et donc c'est des éléments qui jouent sur notre libido. Et puis il y a la chaleur. Alors pourquoi je parle de la chaleur ? Parce qu'on oublie souvent que quand il fait chaud, on a une meilleure circulation en périphérie de notre corps. D'ailleurs, les gens qui ont un syndrome de Raynaud le remarquent très bien. Et on a une meilleure circulation de sang dans les organes génitaux. Ça a même conduit certaines personnes à parler du syndrome de pénis d'été. Il y a des mecs, par exemple, qui ont le pénis qui se rétracte en hiver et au repos et qui retrouvent une taille plus intéressante en été, juste pour la circulation de sang en fait qu'on a dans le pénis.
Ah ouais, le syndrome du pénis d'été.
Il décapote en fait.
Oui,
il décapote. Bah, c'est sympa, il fait beau.
Il hiberne l'été, il rentre dans sa coquille et puis.
C'est ça. Et c'est lié à la chaleur qui contracte les artères et qui fait rentrer le sang. Donc,
Patrice est en train de vérifier.
Mais Gilbert, les animaux que nous sommes ne sont pas un peu programmés quand même, parce que c'est aussi la saison des amours de manière générale, le printemps.
Oui, si, il y a probablement un reste du monde animal où on a une programmation biologique, sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi en fait c'est à ce moment-là, à part les éléments qu'on a donnés, c'est-à-dire la luminosité et la chaleur. Alors quand on calcule, si on dit qu'on est programmé pour se reproduire, parce que finalement, si on revient au monde animal, la sexualité, elle est surtout pour la reproduction. Si on est programmé pour se reproduire pendant l'hiver, c'est qu'on est programmé pour un accouchement qui arrive à un moment précis. Et on n'a pas d'explication pour ça. Hein.
Question courte, Patrice, réponse courte, s'il vous plaît.
Super. Non, mais je me demandais si on avait
comme le lit d'hiver.
Voilà, merci.
Merci, voilà, on ne posera pas la question finalement.
Voilà. Non, mais je me demandais si dans les pays où il fait beau toute l'année, ça arrive aussi,
ils sont complètement
on constate
fous.
Le même phénomène printanier qu'en France.
Oui,
ou
oui.
Si vous allez vivre au tropique.
Oui, on a le même phénomène. D'ailleurs, quand on voit les enquêtes sur la fréquence des rapports sexuels et je dirais la satisfaction globale sexuelle, on retrouve très souvent dans le top 5 des pays, les pays qui sont au soleil en fait.
Merci beaucoup Gilbert Boujaoudé. Je rappelle que vous êtes médecin sexologue et surtout médecin sexologue de référence pour notre émission.
C'est un plaisir.
Merci. Vous vouliez dire quelque chose Emma pour conclure
un petit quiz comme ça. Qu'est-ce que l'ophiophobie, O-P-H-I-O-phobie?
Bon, ça doit avoir un rapport avec ce qu'on vient de dire, non?
C'est la peur, non, pas du tout. Vous allez forcément trouver un rapport, mais en vrai, ça n'en a pas.
O-P-H-I-O. Hein,
oui, ophiophobie.
Je donne ma langue à qui vous voulez.
C'est la peur des serpents. En grec, serpent se dit ophis. D'ailleurs, c'est un nom féminin. C'est une peur qui est très répandue, peut-être même inscrite dans nos gènes il y a bien longtemps pour nous protéger de leurs morsures mortelles, comme j'ai pu lire dans l'ouvrage de Sylvie Brunet, 1001 phobies. J'ai aussi appris que Matt Damon, Salma Hayek et Justin Timberlake étaient ophiophobes. Voilà.
D'accord. On apprend des trucs dans cette émission.
Incroyable.
Dans quelques instants, la partie 3 avec bien évidemment le jeu.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la troisième partie de l'émission. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good, avec en couverture cette fois-ci sur le numéro qui est en kiosque, soulager vite maux de tête et migraines, les nouveaux médicaments, les bons réflexes. D'après vous les amis, est-ce qu'on peut avoir mal au cerveau?
Une céphalée, c'est pas une. Non,
mal aux muscles qui entourent le cerveau.
Non, on peut, oui, mais le cerveau n'a pas de récepteur de la douleur. Donc le cerveau ne fait jamais mal. C'est pour ça que vous avez peut-être vu des interventions aussi où on faisait presque sans anesthésie pour opérer le cerveau, pour voir un peu les réactions. Ce sont les méninges qui peuvent faire mal, qui sont autour, les enveloppes autour du cerveau qui peuvent entraîner, elles, des douleurs, ou les muscles. Et là, on parle de céphalée, de tension, tous les muscles qui s'insèrent sur le crâne. Et quand vous êtes stressé, tendu, vous pouvez avoir un mal de tête à la fin de la journée parce que vos muscles se contractent et ça vous donne l'impression que ça vient de l'intérieur. Toutes ces réponses, toutes ces questions sur soulager vite les maux de tête et migraines. Dr Good, le magazine qui est en vente actuellement. C'est l'heure du jeu, les amis. Nous allons prendre en ligne Nicole. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nicole, vous habitez en Haute-Savoie ?
C'est ça.
À Cranves. On dit quoi, salle ou salette?
Cranves salle, je connais.
Cranves salle.
Ah, Patrice connaît, oui. Parce qu'il a été VRP à un moment.
Non,
oui.
Je suis allé en colonie de vacances quand j'étais gamin à Cranves salle. Très joli.
Ouh là là.
C'était sympa.
Est-ce que vous vous en souvenez, Nicole, du passage de Patrice?
Pas tout à fait.
Pas comment tout à fait, mais personne ne s'en souvient jamais. C'est en Haute-Savoie. Alors, vous travaillez dans les assurances?
C'est ça.
Alors, vous allez... C'est un beau cadeau hein, qu'on va vous faire si vous arrivez à gagner. Vous allez... gagner une semaine de vacances en famille avec VVF, deux adultes et deux enfants, enfin quatre personnes en tout cas.
Oui.
Vous pourrez pratiquer dans un des 100 VVF en France, cheval, rando, paddle, VTT, tout ce que vous voulez, du rafting, tout ce que vous voulez. Vous pourrez choisir votre lieu de vacances sur vvf.fr. Alors, Nicole.
Oui.
Comme vous le savez, nous avons tous un pancréas.
Oui.
Cet organe intervient dans la régulation de notre taux de sucre dans le sang en sécrétant notamment de l'insuline. Le pancréas joue donc un rôle majeur dans le diabète. Et ça, on le sait depuis 1889 grâce à deux scientifiques allemands, Joseph von Mehring et Oskar Minkowski, qui l'ont découvert un peu par hasard. Toute la question, c'est de savoir comment. Trois versions, deux fausses, une vraie. Version Christophe.
Alors, on commence par la bonne. Donc, alors, l'un des deux scientifiques était un grand gourmand. Il ne cessait de manger des sucreries. Et c'est son collègue qui, un jour, lui a fait remarquer une excroissance dans son abdomen. Figurez-vous qu'après vérification, il s'est avéré que plus il mangeait de sucreries, plus son pancréas grossissait au point d'être visible à l'extérieur. On lui disait d'ailleurs, allez, arrête un peu, range ton pancréas maintenant.
Oui, quand même.
La version d'Emma.
Non, un jour, les deux scientifiques ont prélevé le pancréas d'un chien. Et ils se sont aperçus que quand le chien faisait pipi, il y avait toujours tout un tas de petites mouches qui volaient autour de son urine. Donc ils ont fait analyser l'urine et ils ont trouvé qu'elle était pleine de glucose. Donc ils se sont dit, tiens, le chien n'a plus de pancréas et son urine est pleine de glucose. Donc le pancréas doit jouer un rôle dans le contrôle de la glycémie.
Voilà. Mais quelle imagination !
Version Patrice.
En fait, les deux chercheurs pratiquaient une autopsie lorsque l'un d'eux a touché le pancréas avec son index et par curiosité a ensuite posé son doigt sur sa langue. Il voulait savoir en fait quel goût ça avait. Non mais ça arrive.
Heureusement qu'il n'était pas, pas proctologue.
Tous les jours.
Donc, quand même. Il met l'index sur la langue, il trouve ça tellement amer qu'il se dit, c'est pas possible, cet organe a un goût tellement amer qu'il ne peut avoir d'autre fonction que de compenser par son action un trop-plein de sucre. Et la suite a montré que l'intuition était bonne, tout comme cette version.
Donc il y a des médecins légistes
qui s'amusent à goûter.
D'abord, qui font les autopsies mains nues.
Non, mais c'était en 1889, ouais, Michel. Ouais, on faisait n'importe quoi à l'époque.
Ouais, c'est vrai,
vous savez bien.
Je sais pas pourquoi il a mis avec le doigt. Il aurait pu mettre la langue directement sur le pancréas.
Oh oui.
Nicole.
Vous n'y croyez pas à ma version, j'ai l'impression.
Bah, c'est pas moi qui joue. Tous les on va voir ce que Nicole croit ou pas. Nicole,
oui.
Je vous rappelle les trois versions.
Oui.
Donc, il y a « je mets mon doigt dans la bouche après avoir fait l'autopsie ». Je m'aperçois que le chien qui fait pipi, qui a plus de pancréas, il a un pipi sucré. Et puis celle de Christophe dont je me souviens pas, c'est pour vous dire qu'elle m'a marqué.
Le pancréas qui grossissait à coup d'œil.
La bouboule, la bouboule
voilà.
Dans le ventre.
La bouboule à papa.
La bouboule qui apparaît chez quelqu'un qui est diabétique.
Eh bien, attention. Écoutez, je dirais pour le pipi de chien en fait.
Le pipi de chien. Bravo.
Ah super.
Bravo. Alors ça demande une explication quand même, Emma.
Eh ben oui, merci, c'est bien. Emma. Bravo, bien, bravo, bien joué. C'est bien grâce au comportement du chien qui urinait en effet fréquemment sur le sol et qui leur a fait penser au diabète et donc au rôle potentiel du pancréas dans le diabète. L'une des fonctions du pancréas, je le rappelle, c'est la production de l'insuline. Et au passage, je signale l'existence d'un prix Oskar Minkowski, donc le nom d'un des deux chercheurs, décerné chaque année à un chercheur ayant contribué par ses travaux à la connaissance du diabète.
Bravo, regardez ce que vous avez gagné, Nicole.
Attention.
Magnifique.
Ah mince.
Alors c'était les colonies de Patrice bien évidemment, mais vous ne partirez pas en colonie.
Vous partez à Cranfsal.
Non, mais vous avez gagné une semaine de vacances en famille avec VVF. Vous allez choisir dans 100 VVF en France un séjour pour 4 personnes. Pension complète. Vous pouvez aller sur vvf.fr et vous choisirez tout ça pour toutes les avec tout plein de sports, plein de choses à faire. Merci beaucoup Nicole.
Merci à vous,
et bravo.
Merci à toute l'équipe.
merci d'avoir joué et bravo d'avoir gagné.
Vous êtes super. Merci beaucoup. Merci à Emma.
Bisous Nicole.
Bisous.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
On va changer de sujet maintenant parce que vous savez que tout à l'heure on en a parlé avec Gilbert Boujaoudé, le printemps c'est la montée de la sève dans nos organes, et pas n'importe lesquels, avec augmentation de la libido, mais c'est aussi l'époque où il y a la sortie de tous les magazines qui vous disent « Attention, il est temps de commencer à perdre du poids si vous voulez vous mettre en maillot de bain cet été. » Je ne sais pas si on pourra se mettre en maillot de bain cet été, je ne sais pas si on va pouvoir aller sur les plages, mais en tout cas, les magazines vont probablement sortir. Laurent Saura, bonjour.
Bonjour.
Alors, psychologue nutritionniste et auteur du livre « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal chez Erol », est-ce que je me trompe ou on commence à toucher du doigt la période où on va nous dire « Oulala, vous avez quelques kilos à perdre ».
Ah non, non, vous ne vous trompez pas, on est bien dedans. Le mois de mars, c'est à mars, avril, ça y est, ça démarre, paf. Il faut faire son body, je ne sais plus quoi, la body beach, et pouvoir aller décemment sur la plage, se dénuder. Mais au-delà de ça, il y a quand même, ça manifeste aussi la difficulté qu'ont certaines personnes à se retrouver dans cette période où il faut se dénuder, exposer plus son corps, parce qu'il fait chaud, tout simplement, et parce qu'on met les choses plus légères. Et ça, pour certains, ben, c'est très, très douloureux.
Et puis on sait que la moyenne pendant toute cette durée de pandémie a été d'une prise de poids de 2,5 kg hein, en moyenne par personne. Donc on se dit que les gens qui déjà l'hiver ont tendance à grossir un petit peu parce qu'on fait moins d'activité physique, parce qu'on mange beaucoup plus, ont 2,5 kg en plus à perdre par rapport aux années précédentes et que là, il va falloir faire quelque chose.
Bah, ils ont 2,5 kg à perdre. Pas forcément, c'est écrit où ? Il n'y a pas de livre de la loi qui dit qu'il faut perdre ces kilos-là.
Non, mais ne vous énervez pas, je ne fais que relayer les infos.
Non, mais ça m'agace, en fait, ça m'agace, voilà. C'est ça que je manifeste, c'est que finalement, on est depuis 50 ans dans cette logique annuelle et voire même quotidienne qu'il faut perdre du poids, qu'il y aurait un poids santé, qu'il y aurait des obligations par rapport à ça. Et on demande aux gens de le faire comment ? En leur demandant de faire des régimes. Or, on sait, et là je vais vous parler à vous, médecin Michel, on sait que si on avait par exemple mal à la tête et qu'on donnait un cachet qui ne fait effet que très temporairement, qui augmente le mal de tête ensuite et qui en plus a des effets secondaires extrêmement préjudiciables pour la santé mentale et physique, chez 95% des gens qui prendraient ce cachet, je pense que plus personne n'oserait prescrire ce médicament. Mmh. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les régimes.
D'accord. Donc, vous êtes anti-régime ?
Ah bon ?
Le mec qui comprend rien ce qu'il dit. Ah, vous êtes pour les régimes. Alors, justement, Patrice, vous en avez fait pas mal des régimes dans votre vie, Patrice.
Ils n'ont pas marché.
Ah bon. Vous avez une question pour Laurent.
Non, mais j'ai une question parce que j'ai bien compris que les régimes c'était une mauvaise idée. Mais est-ce que vous pouvez donner, Laurence, deux, trois juste conseils pour
une cohérence alimentaire,
voilà, que l'on puisse ne pas grossir, mais sur le long terme, quoi. Deux, trois conseils de base.
Ouais, vous avez vu déjà comment c'est difficile de prononcer une phrase sans dire pour perdre, pour...
je comprends.
Manger autrement.
Ouais, j'avoue.
Déjà, manger pour perdre du poids, c'est une espèce de paradoxe ambulant. On mange, on incorpore des aliments, on incorpore de l'énergie, a priori, on fabrique du corps. Et maigrir, c'est défaire du corps. Donc déjà, c'est compliqué. Mais comment se réconcilier ? Moi, je dirais comment pacifier déjà son rapport à l'alimentation ? D'abord, en arrêtant de faire des régimes et en arrêtant de croire qu'on peut manger pour perdre du poids. D'ailleurs, ça fait belle lurette qu'on sait, par exemple, que c'est pas parce qu'on mange de la soupe qu'on va grandir. Donc, on est fait pour avoir une certaine taille et on vit avec. Eh ben, on est fait pour avoir un certain poids. Et ce qui serait bien, c'est d'apprendre à vivre avec. Parce que si on arrête de vouloir faire bouger ce poids qui serait, disons, un poids d'équilibre, un poids de forme, il y a de grandes chances qu'on y reste de façon beaucoup plus durable. Alors, c'est pas forcément le poids beach body ou le poids qu'il convient de faire selon des règles de calcul très complexes, mais c'est un poids pour lequel on est programmé.
Donc ça veut dire, Laurence, parce que justement le titre de votre livre, c'est « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal ?» Vous entendez idéal dans le sens le vôtre, pas idéal par rapport à la société, pas idéal par rapport à l'image qu'on veut donner de soi.
C'est exactement ça, oui. C'est toute la complexité de ce terme, poids idéal. Je vous avoue que ça a donné lieu à une grande discussion avec mon éditrice. J'étais pas forcément d'accord parce qu'en effet, poids idéal, c'est souvent entendu dans le sens de la société ou dans le sens médical. Là, c'est vraiment dans le sens de celui qui est le vôtre, celui que vous pouvez aller trouver ou retrouver pour vous sentir fonctionner au mieux.
Alors, Laurence, Patrice, vous avez demandé des conseils, donc 2-3 conseils rapides et concrets, s'il vous plaît.
Vous réconcilier avec vos besoins physiques, c'est-à-dire déjà les identifier et puis ensuite les entendre, les accepter, vos besoins physiques et psychologiques. Ça passe par le fait de manger quand on a faim, de repérer quand on a faim, d'arrêter de se soumettre à des habitudes ou des rituels. C'est laisser le corps retrouver son poids de forme. Et puis, c'est manger avec plaisir, bouger avec plaisir, pas pour se dire pour perdre ou pour voir les résultats, mais juste aller vers ce qui est bon pour soi dans tous les sens du terme.
Retrouver un équilibre, une cohérence alimentaire, comme le disait tout à l'heure Christophe. Je rappelle le titre de votre livre, Laurence Aura, « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal ?» Dans le sens, vous l'avez compris, idéal pour vous et pas forcément pour les autres. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir répondu à nos questions. Dans quelques instants, on va se retrouver avec Christophe avec un drôle de pari.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Christophe, il y a quand même des gens qui font des choses, je ne sais pas si on doit dire exceptionnelles ou inutiles, ou les deux, et qui battent des records complètement invraisemblables.
Alors de tout temps, l'homme a voulu toujours repousser ses limites. Alors l'homme, l'être humain, hein, j'englobe évidemment les femmes. Il y a par exemple l'allemand Florian Neuschwander, je ne sais pas si je le dis bien.
Neuschwander,
qui était déjà détenteur du record du monde du 50 km sur tapis de course. Vous imaginez, hein, 50 km sur le tapis de course, eh ben, il a battu en janvier dernier le même record, mais sur 100 km cette fois, en 6h26 et 8 secondes, pour être tout à fait exact. Il a quand même couru à 15,5 à l'heure, ça fait 3 minutes 52 au kilomètre, pendant toute cette distance. Voilà.
Alors vous allez nous parler de Pascal Piche, vous allez en parler bien, j'espère, parce qu'on va l'avoir au téléphone tout à l'heure, histoire qu'il nous raconte un peu tout ça.
Alors là, oui, alors, notre ami allemand là, qui courait sur son tapis, là, il fait presque figure de débutant à côté de Pascal, parce que Pascal, c'est pas 100 bornes sur un tapis qu'il va faire, c'est 18 000. Oui, vous avez bien entendu, 18 000 kilomètres, mais à vélo, sur un home trainer. Pascal Piche a un parcours particulier. Il est parachutiste militaire de formation. Il a 57 ans. Aujourd'hui, il est adjudant chef de réserve au groupement de recrutement de la Légion étrangère. Son boulot est de faire rayonner cette belle institution pour notamment favoriser le recrutement des jeunes Français.
Oui, il a aussi un palmarès qui est long comme le bras. Lui.
Ah oui, alors oui, il a fait son premier triathlon dans les années 80. Il y prend goût. Il fait même des Ironman. Alors l'Ironman, vous savez ce que c'est, hein, à peu près, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon donc de 42,195 en courant pour finir. Eh bien, il y a la version DK qu'a fait Pascal, c'est tout ça multiplié par 10. Voilà, donc c'est 38 km de nage, 1800 km à vélo, 423 km en course à pied, et avec ça, il est 5 fois champion du monde de DK, de tri et de double iron. Il est une fois champion d'Europe, il a 10 records du monde, il est la deuxième perf de tous les temps sur le DK Iron en 8 jours, 3 heures, 27 minutes et 26 secondes. Et puis après ça, comme il a fait pas mal de choses, il a fait un Tour de France cycliste en 8 jours et 8 nuits, un autre Tour de France en 24 triathlons. Il a enchaîné 12 Iron à la suite. Enfin bon, c'était en 2009. C'est quelqu'un qui aime bien la distance.
Ah bon ? Et là, il a un autre défi qui commence le 8 avril.
Oui, alors pour fêter les 50 ans de sa carrière sportive et pour faire sauter symboliquement les frontières qui sont fermées en ce moment, il va monter sur un home trainer à vélo, donc, pour faire 18 093 km précisément. Soit la distance entre le fort de Nogent, le siège de la Légion, et la ville de Cameron de Tejeda, au Mexique, ah, où si. A eu lieu une grande bataille entre les légionnaires et les troupes mexicaines, le 30 avril 1863.
Caramba.
À l'époque, 65 légionnaires avaient réussi à résister plus d'une journée aux assauts de 2000 Mexicains. Comble de l'engagement, à 18h, il restait 5 légionnaires qui décident de mettre leur baïonnette au canon. Il y en a 2 qui sont morts, il y en a 3 qui ont réussi à survivre, mais ils se sont rendus. en échange de pouvoir garder leurs armes et de pouvoir prendre en charge leurs camarades blessés. Voilà, c'est un haut fait de la Légion qui est célébré chaque année et sur lequel Pascal Piche vient 158 ans après poser son exploit sportif cette fois-ci.
Et c'est une belle histoire, mais il va passer symboliquement par où pour rallier le Mexique, 18 000 km. Si vous faites un direct France-Mexique, ça fait pas 18 000 km, si je vois bien.
Alors il va mettre symboliquement donc le cap à l'Est et il va traverser l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Russie, le Kazakhstan, le Canada, les US, donc les États-Unis, et enfin il va arriver au Mexique. Arrivée prévue le 1er mai. Quand je vois tout ça et que j'entends Neymar dire qu'il ne peut pas jouer tous les trois jours, je vous assure que je...
Oh, mais moi j'en ai marre que vous attaquez sans arrêt ce joueur de génie. Pascal Piche, bonjour.
Bonjour.
Vous vous ennuyez dans la vie, Pascal, pour faire tout ça?
Non, pas spécialement, mais bon, quand on est passionné, on recherche à dépasser toujours un petit peu plus ses limites. Et puis comme les miennes commencent à être de plus en plus loin, ça pousse des défis toujours de plus en plus gros, quoi, en fait.
Et avec tout ce que vous faites, là, vous n'avez jamais mal nulle part?
Eh ben non, à 57 ans, je suis comme un jeune de 20 ans. Bon, j'avoue que le matin, en me levant, des fois, ça coince un peu, mais 5 minutes après, tout va bien et... Non, c'est parfait, faites du sport, quoi.
Ah oui, mais ça... Ah bon ? Patrice.
Pascal, est-ce que... je voudrais m'attacher à la dimension psychologique de votre démarche. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous couriez ?
Alors, on ne cherche pas trop à se demander pourquoi. On fait les choses par passion. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça. En fait, je me suis aperçu que plus les distances étaient longues et mieux je me sentais. Alors, bien sûr, le corps fabrique des endorphines et tout ça, c'est pas nouveau. Enfin, voilà, je ne vais rien vous apprendre là. Mais il y a un moment où il y a une sensation de bien-être qui va au-delà de la souffrance. Et c'est un petit peu ça qu'on recherche finalement, quoi. Toujours rechercher le bien-être et tout en faisant une activité qui soit un peu démesurée, quoi.
Christophe,
vous organisez votre journée comment? Vous pédalez combien d'heures par jour? Comment est-ce que ça se passe?
Eh bien, alors là, en fait, ça va être réveil 5h15, sur le vélo à 6h, petit déj sur le vélo, et je pédale jusqu'à 23h, et après une douche et au lit, et 5 heures de sommeil, et rebolote le lendemain, quoi.
Emma?
Moi, je suis pas une grande coureuse, parce qu'au bout de 37 minutes, je m'ennuie. Donc, je me demandais sur vos longues distances que vous parcourez, qu'est-ce qui occupe vos pensées à vous?
Alors, l'important dans ce genre de truc, comme on le disait tout à l'heure, c'est la partie psychologique et de fait, il faut éviter de penser. Donc pour éviter de penser, on s'occupe différemment, on peut regarder des films, écouter de la musique et là, pour le coup, on va être en live 17 heures par jour sur les réseaux sociaux et en fait, j'échange avec les gens, donc tout en pédalant, je réponds aux questions qu'on me pose via les réseaux et du coup, ça m'occupe, ça passe bien les journées et on s'aperçoit vite qu'on est à la fin de la journée, quoi.
Une dernière question, Pascal, et là, pardon, c'est le médecin qui s'y intéresse. Je m'éloigne de la psychologie, je pense à votre périnée. nous faisons un peu de vélo, nous, de temps en temps, et on sait qu'au bout de 100 bornes, parce que nous ne sommes pas des professionnels, on commence à avoir le périnée qui chatouille un peu. Comment vous faites pour tenir 18 000 km sur une selle sans avoir de problème de ce côté-là?
Alors déjà, il faut être clair, il faut des cuissards de qualité avec des peaux qui sont vraiment très techniques. Maintenant, on fait ça à base de gel un petit peu, donc on a une bonne protection. Une selle qui vous convient parfaitement, qui était bien faite à la forme de vos fesses. Et après, il peut y avoir bien sûr des frottements, ça arrive, ça m'est arrivé sur des compètes. Mais bon, après on croise les doigts. Mais c'est vrai que la qualité des produits, un soin, toujours être propre, changer de cuissard plusieurs fois dans la journée et puis après tout va bien, quoi.
Ah oui, et puis il faut penser à aller à la selle bien évidemment. Merci. Merci beaucoup Pascal, souhaite bon courage. On va rappeler l'exploit qui s'annonce.
Oui, Pascal monte sur son vélo le 8 avril. Il va pédaler jusqu'au 1er mai. Et vous avez bien entendu, il va pédaler le 6h du matin à 23h. Et puis, il sera accompagné de temps en temps. Et j'ai vu dans votre dossier de présentation que quelques personnalités viendront pédaler à côté de vous. Donc, on vous souhaite bonne chance. Et puis, bon courage surtout. Et puis.
On va suivre ça.
Exactement. On verra où vous en êtes.
Okay. Voilà. Merci Pascal beaucoup, de nous avoir pris en ligne.
Merci, et
bon courage. Merci les amis, c'est la fin de notre émission. N'oubliez pas surtout ce message. Oh
belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème.
Et oui, je ne sais pas quand, mais la lumière au bout du tunnel arrivera bien un jour. Donc voilà, essayez de profiter de ce début de printemps, de cette libido qui monte. Gardez votre poids idéal et puis on se retrouve bien évidemment dimanche prochain à 9h15 avec la petite bande. Et d'ici là, portez-vous bien.
Bonne semaine. Journée.
Au revoir.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.